Ce matin, nous poursuivons la série de l'Avent sur les différentes prophéties annonciatrices de Jésus. Nous allons aujourd'hui aborder le rôle de prophète de Jésus. La Bible mentionne à plusieurs reprises le rôle de prophète de Jésus. Nous prendrons comme texte de base, de départ, la première mention de ce prophète à venir dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18. Et je lis pour ça les versets 14 à 20. Car ces nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel, votre Dieu, le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors, l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur transmettrai tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne l'aurais pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Autour de cette annonce de Moïse de la part de l'Éternel, il y a un pourquoi, il y a un parce que. Je ferai référence à d'autres textes pour nous aider à comprendre cela. Dans un premier temps, on verra le pourquoi. Nous verrons que Moïse et la loi qu'il donna au peuple servent de guide à ce tout nouveau peuple sorti d'Égypte. Ensuite, et c'est pour ça qu'on est là, nous nous projetterons à l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. Elle était accomplie parce que Jésus a apporté l'enseignement et le Saint-Esprit permettant d'être transformé pour faire ce qui est bon. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un prophète ? Un prophète, c'est une personne qui parle avec autorité de la part de Dieu. Ce n'est en rien un voyant ou un devin qui parle de sa propre volonté. Verset 14. Le message qu'apporte le prophète à son auditoire est d'une telle autorité que Dieu punit les faux prophètes. Verset 20. Moïse était un prophète. Il y a des trous dans le tableau, c'est normal. On va les remplir au fur et à mesure, ça va vous permettre de suivre. Toute cette histoire. Du coup, Moïse, donc il était un prophète. Mieux, il était à l'image du grand prophète annoncé et promis par l'Éternel au verset 18. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Cette promesse est une réponse à une demande du peuple qui est citée au verset 16. Cette demande est intéressante pour comprendre la relation entre Dieu et son peuple. Lisons-la dans son contexte. Et pour ça, revenons un peu en arrière dans la Bible, dans le chapitre 20 du livre d'Exode. Je lis les versets 18 à 20. Nota bene, le chapitre 20, c'est celui de l'annonce des 10 commandements. Et on est juste après cette annonce. Vous allez voir. Exode 20. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve, et pour que vous le révériez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Le peuple ici demande à Moïse d'être le médiateur entre eux et l'Éternel. Dans ce rôle, il va mettre en place l'enseignement des 10 commandements et de leur implication concrète. Cette loi, qu'on appelle justement la loi mosaïque, va servir de guide pour le peuple. Jamais auparavant dans la Bible, il n'a été défini aussi clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Ce temps passé ici au mont Sinaï est un temps d'enseignement. Dieu vient donner par Moïse cette loi qui va permettre à chacun de juger si ses actes, si son comportement est bon dans la relation avec Dieu et dans la relation avec les autres. Si leur comportement est bon dans la relation avec Dieu et avec les autres. Les 10 commandements n'ont pas instauré le péché. Le péché était déjà présent dans le cœur de l'homme depuis Genèse 2. La loi, par contre, a permis de révéler le péché. À cause de la présence du péché chez l'homme, sa relation avec Dieu est brisée, elle est distante. Et c'est ce qu'on a un peu ici, ils en ont peur. Quand ils disent que l'Éternel ne nous parle pas directement de peur que nous ne mourions. Voilà ce que crée cette distance. Le respect de cette loi permettrait, j'imagine, que cette relation soit restaurée. Le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, sont donc une bonne chose. Il est un guide pour le peuple afin qu'il puisse savoir comment faire le bien. Pour vous donner une analogie à ça, le code de la route. Bien qu'il comporte un peu plus de 10 règles, est aussi une bonne chose. Il définit que dans un espace partagé et commun qu'est la route, chacun puisse être libre de circuler tout en assurant le respect de la liberté des autres conducteurs, sa propre sécurité et la sécurité des autres. De plus, vous le savez peut-être, en cas d'accident, cette loi permet de juger qui est dans son droit et qui est fautif. Ces règles ayant été décidées par des hommes, elles sont probablement imparfaites. Les débats et les mécontentements autour des 80 km/h nous le démontrent. Toutefois, quand vous rentrez chez vous après le boulot, il faut aller chercher les enfants à l'école, et qu'un automobiliste trop optimiste, ou peut-être un peu égoïste, s'est engagé au dernier moment au feu tricolore et du coup bouche le carrefour, ne seriez-vous pas content s'il avait suivi le code de la route et attendu en retrait que le carrefour soit dégagé avant de s'y engager? Verset 2 du chapitre 415 du code de la route. Pour le peuple hébreu, cette loi a été clarifiée dans Exode 20. Moïse est le grand prophète de l'Ancien Testament, car il a annoncé, il a enseigné au peuple les 10 commandements, la loi de Dieu. Il a été le premier et le seul de tout l'Ancien Testament à avoir apporté au peuple cet enseignement afin qu'il soit guidé dans sa vie, dans leur vie. Avant de continuer sur l'analyse du rôle de Moïse et de ce qu'il dit dans le Deutéronome 18, marquons une pause. Dieu veut une relation avec les hommes. Cette affirmation, elle est vérifiée par une foule de passages bibliques, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Le Seigneur s'intéresse à nous. Le fait ici qu'il prenne le temps d'enseigner son peuple démontre son intérêt pour nous. L'Éternel n'est pas un Dieu distant, un Créateur désengagé du devenir de sa création. Il prend le temps d'expliquer, de rectifier, de punir, de pardonner les hommes, et par cela, il fait vivre la relation avec nous. Alors, comment va votre relation avec lui? Comment est-ce que vous le recherchez? Le Seigneur ne se trouve pas en tâtonnant. n'est pas au bout d'un cheminement spirituel long et abstrait. Dieu est là. Il attend que nous lui parlions avec des mots simples, avec nos mots. Si vous êtes en recherche dans votre foi, osez lui parler avec ce qui vous passe par la tête. Peut-être que vous seriez surpris. Je ferme la parenthèse sur cet aspect de la personnalité du Seigneur et revenons-en à Moïse. Son rôle est primordial à cause du fait qu'il parle avec autorité de la part de Dieu, qu'il l'a institué prophète. Du coup, reprenons le texte à la base de cette prédication et repartons dans le chapitre 18 de Deutéronome que j'ai lu au début. Le verset 18 de ce chapitre est la clé qui nous fait passer de Moïse à Jésus. Dieu a promis qu'un prophète tel que Moïse serait envoyé auprès du peuple. Son rôle sera donc le même, guider son peuple. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un nouvel enseignement? Pourquoi est-ce que la loi de Moïse n'est pas déjà un guide suffisant? Il y a plusieurs contraintes que nous avons peut-être un peu plus conscience maintenant, mais qui n'étaient pas forcément évidentes à ce moment-là, mais plusieurs contraintes au sujet de cette loi mosaïque. La premièrement, c'est que de tous les récits de l'Ancien Testament, il n'y a aucun homme qui a pu respecter cette loi. Toute sa vie. Même Moïse, le guide spirituel de tout le peuple, suite à un péché, s'est vu refuser par l'Éternel l'accès à la terre promise. Deuxièmement, cette loi a été donnée au peuple hébreu. Le reste de l'humanité, à cette époque-là, sont appelés les nations et sont exclus de l'alliance entre Dieu et les Hébreux, l'alliance d'Abraham. Si nous lisons ici que la loi a été donnée à un peuple qui était sous l'alliance conclue avec Abraham et Dieu, nous savons, par l'ensemble du récit biblique, que Dieu aime tout homme. L'alliance faite avec un peuple issu d'un seul homme, Abraham, n'est que l'image de l'alliance que Jésus a mise en place. Aussi, comme le dira Jésus lui-même bien plus tard, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Cet accomplissement viendra faire sauter les deux contraintes que je viens de citer. Et j'ouvre ainsi la seconde partie de mon message où Jésus fait passer de l'application à la compréhension de la loi. Au travers de la notion d'alliance, le prophète Jérémie dit ceci dans son chapitre, dans son livre au chapitre 31. Ouais. Donc Jérémie parle. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi-même, j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel !» Car tous le connaîtront, les plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Ainsi donc, cette nouvelle alliance comprend cette promesse qui peut paraître un peu poétique. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Nous avons vu que Moïse et la loi servent de guide pour le peuple. Toutefois, la suite des récits de l'Ancien Testament démontre avec acharnement que la loi, malgré toutes les explications du Deutéronome, est bien difficile à mettre en application. Cette loi aurait pu être un guide parfait pour un peuple sacré s'il avait pu la comprendre et l'appliquer sans relâche. À l'inverse de ça, le livre de Jérémie se situe historiquement quelque temps avant la déportation du peuple à Babylone après avoir abandonné Dieu. Voilà le contexte dans lequel on parle d'une nouvelle alliance. La réponse de Dieu par Jérémie est de placer sa loi au plus profond de chacun. Le peuple était incapable d'appliquer cette loi. Jésus permettra de dépasser l'application des règles pour que chacun puisse comprendre la loi de Dieu. Alors, quand un enseignant de la loi vient voir Jésus pour lui demander quel est le plus grand commandement, Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas étrange de résumer toute la loi mosaïque à simplement ces deux enseignements. Et si toute la loi était contenue dans le fait d'aimer pleinement Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même? Cette semaine, dans les groupes de maison, si vous y avez été, nous avons étudié la dernière partie du sermon sur la montagne. C'est un passage d'enseignement très riche pour les disciples, mais aussi pour tout le peuple présent pour l'écouter. Vous remarquerez que les prophètes aiment bien la montagne, sauf Jonas, lui qui a plutôt un côté maritime. Moïse, lui, est monté sur le mont Sinaï pour recevoir l'enseignement fondateur de la part de Dieu. Jésus est monté sur une colline, on appelle ça une montagne, mais sur une colline de Jérusalem, je crois, pour enseigner tout le peuple. Toutefois, la similitude ne s'arrête heureusement pas à cet aspect géographique. Le chapitre 7 de Matthieu, la fin du sermon sur la montagne, conclut tout l'enseignement de Jésus par deux versets qui me paraissent être un bon résumé de tout cet enseignement. Au verset 12, vous avez « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Au verset 24, il dit « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. » Pour les autres, tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Ces deux versets font écho aux deux commandements que Jésus dit être les plus importants. L'amour du prochain, ici au verset 12, l'amour et la foi en Dieu, ici au verset 24. Alors, est-ce que nous avons assez de matériel pour justifier que Jésus est le prophète à l'image de Moïse? Oui, je crois. Souvenez-vous de l'image que j'avais utilisée avec le code de la route, où nous étions victimes d'un odieux non-respect de la loi par un confrère automobiliste. N'avais-je pas, d'une certaine manière, demandé que justice soit faite? Et si, à la place de ça, j'étais encouragé à aimer cette personne comme moi-même? Le monde serait-il si parfait si chaque être humain respectait scrupuleusement la loi? Cela m'empêcherait-il de ne pas haïr mon voisin qui tombe sa pelouse un dimanche après-midi ou de dire du mal de tel ou tel collègue? C'est légal, après tout. Je peux rêver à un monde parfait où tout le monde aime son prochain. Mais peut-être qu'avant de l'attendre des autres, il serait bon que je commence par moi. En ce qui concerne ma relation avec Dieu, notre relation avec Dieu, personnelle du coup, Jésus nous invite à dépasser les formules toutes faites. Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire les calculs pour faire ce qu'il faut pour être avec Dieu. Les Juifs venaient au temple de Jérusalem au moins une fois par an. Les musulmans prient 5 fois par jour. C'est bien, peut-être. Mais les rituels ne doivent pas nous empêcher d'aimer Dieu. Une foi solide dans le Seigneur est une composante fondamentale d'une attitude qui témoigne d'elle-même de la bonté et de l'amour du Seigneur. Une foi solide est une composante fondamentale qui témoigne d'elle-même de l'amour du Seigneur. Les enseignements de Jésus ne remplacent pas la loi de Moïse, mais viennent expliquer pourquoi toutes ces règles et tous ces commandements. Et cet enseignement, il vit en nous. Et l'Esprit Saint, donné par Jésus, nous aide à le comprendre et à ce qu'il nous transforme de l'intérieur. Et Dieu avait dit qu'il inscrirait la loi au plus profond de nous. En cela, Jésus est le prophète qui vient à la suite de Moïse, car il apporte, par cet enseignement, un guide de grande valeur pour notre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas 101 règles à suivre pour une vie réussie. Laissons ce créneau au coach en développement personnel. La parole de Dieu, elle, est un enseignement vivant qui doit faire sa place au fond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, et qui, avec l'aide du Saint-Esprit, doit venir nous transformer. Alors soyons vraiment, vraiment reconnaissants du cadeau que nous a fait le Seigneur par le don du Saint-Esprit. Laissons-le faire résonner les enseignements de Christ en nous. Je propose de conclure par la prière. Seigneur, merci 1000 fois, merci pour nous avoir donné ton esprit qui nous parle au plus profond de notre cœur et qui vient faire résonner l'enseignement de Christ. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de ton aide pour laisser derrière nous ce qui fait de nous de mauvaises personnes. Père, pardonne-nous nos péchés et permets-nous d'être à notre attitude, le témoin de ton amour pour chaque personne autour de nous.